Radio Okapi.
Situation sécuritaire préoccupante à Mambasa en Ituri où des ADF éparpillés à divers endroits multiplient depuis une semaine des attaques contre des civils et des forces de défense, et notamment près du village de Banjou-Banjou, où on compte au moins une vingtaine de morts et des blessés. Début ce matin d'une énième opération de démolition des constructions anarchiques dans la ville de Kananga, initiative saluée par une partie de la société civile qui souhaite qu'elle perdure, ce que la mairie promet cette fois. Avec notre invité Jean-Marc Matouaki, directeur du programme de Radio Okapi, vous en saurez un peu plus sur la nouvelle grille de programme de votre radio. Elle est entrée en vigueur aujourd'hui. Bonjour, nous commençons en Ituri. Les rebelles des ADF ont intensifié depuis une semaine leurs attaques contre des civils et des forces de défense aux abords du village de Banjou-Banjou. Nous sommes dans les territoires de Mambasa. Selon des sources locales et militaires, au moins une vingtaine de personnes, dont des soldats de FARDC, ont été tuées, une dizaine d'autres blessées lors de plusieurs embuscades tendues par ces hommes armés. Par ailleurs, d'autres groupes de l'ADF ont fuite face aux opérations militaires en cours à Mambasa, auraient établi de nouveaux bastions vers Mont Oyo et Mungamba en territoire d'Irumu, où ils tenteraient de se réorganiser. Leur présence suscite de fortes inquiétudes parmi les usagers de la route nationale numéro 4. Isaac Remoyope nous en dit plus.
La majorité des combattants ADF est actuellement disséminée en profondeur de la forêt dans la chefferie de Babila Bakwanza en territoire de Mambasa, à environ 100 km de Bunia. Ils tentent d'échapper à la traque menée par les forces conjointes FARDC-UPDF, engagées dans des opérations militaires depuis près d'un mois dans la zone. En fuyant, ces rebelles multiplient les embuscades contre les positions des FARDC et les civils. Selon des sources sécuritaires et des acteurs de la société civile, 10 personnes ont été tuées mercredi dernier dans les villages de Banjou-Banjou et Kolo-Kolo. Une nouvelle attaque survenue vendredi a fait 5 militaires tués ainsi que 6 civils et une dizaine de blessés toujours dans les villages de Banjou-Banjou. Des mouvements des ADF sont également signalés depuis la semaine dernière vers Idou dans la chefferie de Walès et Vonkutu en territoire d'Irumu, provoquant une psychose chez les usagers de la route sur l'axe Komandaluna sur la RN4. Un autre groupe de ces rebelles aurait établi son bastion dans le groupement Bakpoulou vers Mungamba sur l'axe Mambasa. Ces combattants imposeraient des taxes illégales aux agriculteurs pour accéder à leur champ. Face à cette situation, les acteurs de la société civile et les autorités coutumières appellent le gouvernement à relancer les opérations de traque des ADF suspendues depuis plusieurs mois dans cette partie du territoire de Romo afin d'empêcher ces rebelles de s'y réorganiser. À ce stade, aucune réaction officielle des autorités militaires n'a encore été enregistrée. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, la situation est restée tendue ce lundi au village de Kazinga et Kiterema, situés respectivement dans les secteurs de Oso Banyungu et Katoï en territoire de Masisi. Selon des sources locales, de violents combats ont opposé hier dimanche des rebelles du mouvement AFM-M23 aux combattants Wazalendo au village de Kazinga et Kasopo. Entre 6h et 10h, des tirs nourris ont été entendus dans cette partie du groupement de Nyamaboko, poussant de nombreux habitants à fuir leur village. Par ailleurs, dans la nuit de dimanche à ce lundi, des combattants présumés par Eko ont mené une incursion au village de Kiterema, situé dans le groupement voisin des ou Famandou. Au moins 4 membres d'une même famille ont été blessés par balle. Une fillette environ 10 ans a, elle, succombé à ses blessures, indiquent les mêmes sources. Province de Tanganyika, retour au calme dans la cité de Manono après une manifestation de motocyclistes ce dimanche. Ils ont exprimé leur mécontentement après la mort d'un de leurs tués par un militaire de FARDC au cours, semble-t-il, d'une dispute, indique des sources locales. D'après l'administrateur du territoire de Manono, le bilan de cette manifestation fait état d'importants dégâts matériels. Nous faisons le point avec Paula Munanga.
Les manifestants en colère, dont certains étaient à moto et d'autres à pied, scandant des chansons, ont sillonné les artères de la cité de Manono. D'après des témoins, ils ont vandalisé le marché Majengo, caillassé le bureau du territoire et incendié une moto d'un colonel des FARDC en place, dont les militaires accusés de meurtre et son chauffeur. Cyprien Kitanga, administrateur du territoire de Manono, revient sur les circonstances de la mort du motocycliste.
Un militaire a tiré sur un motard à 7 km.
kilomètres de Manono centre, dans le village de Kanteba. Des militaires qui étaient du côté Ngoya, aux environs de 35 kilomètres, la route vers Lubumbashi. Il a cherché un moteur pour l'amener à Manono. Quand ils sont arrivés à Manono, il a dit que non, je ne me limite pas à Manono centre, je m'en vais à 7 kilomètres. Apparemment, il y avait des discussions de frais de transport, puis le militaire a tiré à bon portant sur le motard.
Les militaires accusés de meurtre a pris le large avec la moto. Les services de sécurité sont à sa recherche, indique l'administrateur du territoire de Manono. Il rappelle qu'en l'espace de 3 ans, il a enregistré 3 cas de motocyclistes tués par des militaires. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Bouclons cette page sécuritaire. À Kinshasa, un policier congolais aperçu dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux en train d'inciter ses collègues à s'emparer de force du téléphone des citoyens doit être jugé aujourd'hui lundi en procédure de flagrance à Kinshasa. Dans cette séquence filmée devant un poste de police et vraisemblablement dans la capitale, on voit l'agent entonner avec d'autres policiers une chanson en lingala. Zoye Chombo Tikaya Kende arrache lui le téléphone et laisse-le partir, perçu comme une incitation aux raquettes des civils. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a condamné, je cite, des actes barbares et isolés susceptibles de ternir l'image de la police nationale congolaise. Il a assuré d'une fermeté sans équivoque face à de tels comportements. La mairie de Kananga a lancé ce lundi une opération de destruction des constructions anarchiques à travers la ville. Cette initiative vise à démolir les maisons et autres édifices érigés en violation des normes urbanistiques. Tôt ce matin, les agents de la mairie accompagnés de police, des policiers sont descendus sur le terrain pour exécuter cette mesure. Plusieurs boutiques, bistrots, salons de coiffure et restaurants installés sur des sites inappropriés, notamment sur les trottoirs, ont été démolis. André Katende.
Au niveau de la station mobile, en face du commissariat urbain de la police, les agents de la mairie étaient présents dès 5 heures, vêtus des gilets oranges portant l'inscription « Brigade de surveillance de la mairie de Kananga ». Ils tenaient machette, hache et marteau pour procéder à la démolition des constructions de vente installées à cet endroit. Le chef du quartier Malandi, Dominique Chia, qui supervise l'opération, rappelle que les propriétaires concernés avaient été sensibilisés depuis la semaine précédente.
D'abord, c'était la sensibilisation. Ceux qui ont compris ont enlevé d'eux-mêmes les hangars, mais ceux qui se sont entêtés, nous passons à l'acte.
L'opération est saluée par une partie de la société civile. Ben Kapena, militant du mouvement citoyen Lutte pour le changement, encourage la mairie à l'étendre et à la maintenir dans la durée.
Des opérations pareilles, quand elles sont exécutées, c'est toujours les mêmes endroits, mêmes résultats. Vous verrez, après une semaine, je vais passer là, on a détruit aujourd'hui, on a démoli aujourd'hui. Vous verrez que la même population retourne.
La mairie rassure pour sa part que cette opération se poursuivra dans l'ensemble de la ville. Kananga, André Katindengalamoulumé, Radio Kapi.
Nous restons dans l'espace Kassai, le bac Kalelu, principal point de passage entre la chefferie de Bakwa Mulumba dans la province de Lomami et celle de Bakwa Kalonji au Kassai oriental, se trouve dans un état de détérioration avancée. Face à cette situation, riverains et voyageurs tirent la sonnette d'alarme, redoutant un accident majeur en l'absence de mesures urgentes. Explication, Esther Dalafina.
Le bac qui opère sur la rivière Kalelu se détériore de plus en plus. Une partie du bac est presque trempée dans l'eau de la rivière qui s'infiltre dans les chambres et rend la traversée périlleuse pour les nombreux usagers qui empruntent quotidiennement cette voie. Explication.
Si vous avez constaté, le bac s'est enfoncé un peu de plus en plus parce que c'est troué un peu en bas et c'est trop risqué. Et si le bac a accumulé beaucoup d'eau et comprenait un véhicule qui pèse un peu, le risque est élevé.
Face à cette situation, les riverains et les voyageurs tirent la sonnette d'alarme, redoutant un accident majeur si aucune mesure n'est prise. Un motocycliste mène un plaidoyer auprès des autorités.
Nous demandons au gouvernement de nous aider avec les matériaux pour l'entretien du bac en attendant l'érection du pont.
Contactez le grand chef de la chefferie de Bakwakalo met en cause la gestion du bac.
Les deux gouverneurs ont arrêté notre système. Ça a été fait par les Nabel. Comment le bac doit tomber en panne?
Signalons que le bac Kalelu a été construit et mis en service par Enabel, l'agence belge de coopération internationale.
Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Et dans la province du Maniema, le député national de Kailo plaide pour la réhabilitation des routes de sa circonscription. Amici Patrick Lupia formule cet appel à l'issue d'une tournée effectuée dans les territoires dans le cadre de ses vacances parlementaires. Tout en saluant les efforts du gouvernement provincial pour améliorer le réseau routier du Maniema, l'élu de Kailo invite le gouvernement central à soutenir ses initiatives. Il estime que cet appui est indispensable pour permettre à l'ensemble de la population de circuler librement, notamment pour acheminer les produits agricoles vers les centres de consommation. Amici Patrick Lupia, au micro de Florence Kizalunga.
Vous savez, les problèmes des infrastructures routières fait casse-tête dans les territoires de Kailo. Bien sûr, l'autorité provinciale, le gouvernement provincial fait déjà certaines initiatives pour essayer de réhabiliter certains axes. Mais cela ne signifie pas. Nous demandons au gouvernement national d'appuyer les efforts qui sont en train d'être faits au niveau provincial pour réhabiliter les différentes routes d'intérêt national, provincial, qui est celle d'intérêt local. Parce que la vie de la population ici dépend de la circulation. S'il n'y a pas la circulation entre les campagnes ou les villageois qui cultivent chez eux pour venir évacuer dans les grands centres et à contrepartie les grands centres pour aller vendre des produits de première nécessité, vraiment la population reste enclavée. J'ai vécu moi-même, je prends un exemple, j'ai fait Kindu-Lokando, c'est 60 km, mais des 60 km j'ai passé plus de 6 heures, presque toute une demi-journée avant de terminer 60 km jusqu'au niveau où j'ai failli perdre ma vie.
Nous sommes au Congo central à présent dans la cité de Kimpese. Plus de 1000 élèves d'une douzaine d'écoles n'étudient plus depuis jeudi dernier et près de 200 familles sont aujourd'hui sans abri. C'est la conséquence d'une pluie torrentielle accompagnée de vents violents qui s'est abattu sur Kimpese la nuit de mercredi à jeudi dernier. Le sous-préfet de Sungololo 1, Emmanuel Mbiavanga, qui livre cette information, se dit très touché. Il appelle les autorités à remédier urgentement à cette situation qui les empêche de bien reprendre les cours après les vacances de Noël. Nana Plurich Mambou.
Les établissements scolaires touchés par cette pluie torrentielle sont notamment les instituts Vuzilandu et André Wameso, ainsi que des écoles primaires Vuzilandu et Zizila. Si dans certaines, les toitures ont été complètement emportées, exposant et endommageant des documents administratifs, dans d'autres, ce sont des bâtiments qui se sont écroulés. Le sous-prophète de Songololo 1 n'a fait que constater les dégâts. Il est désemparé. Emmanuel Mbiavanga.
J'ai des larmes aux yeux. Il y a plus de 1000 élèves qui n'étudient pas à cause de ces dégâts. Je demande aux autorités de nous venir en aide.
En dehors des écoles, cette pluie accompagnée d'un vent violent a aussi laissé 200 familles sans abri. Leur maison étant dévastée, Sylvain Matutanga, coordonnateur de la société civile de Songololo, affirme que ces sinistrés n'ont jusqu'à présent reçu aucune assistance des autorités.
Des sinistrés sont abandonnés à leur triste sort. L'SOS est lancé auprès des autorités pour qu'ils puissent au moins chercher des solutions appropriées pour cette réalité.
Le secteur de la santé n'a pas été épargné. Un bâtiment du centre de santé Saint-Adé s'est effondré sous cette même pluie, compliquant ainsi l'accueil des malades. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
La multiplicité des taxes des services étatiques et les difficultés d'approvisionnement en médicaments dans les zones sous menace sécuritaire figurent parmi les principales difficultés auxquelles font face les pharmaciens de la ville et du territoire de Beni, dans le Nord Kivu. Ces révélations ont été faites hier dimanche à l'issue de l'Assemblée générale évaluative de l'année écoulée. Pour le responsable de l'association des tenanciers des pharmacies de Beniville et territoire, les pharmaciens de cette région ont droit à un traitement approprié. Deoda Ambusanzanzu est au micro de Marc Maroufimbo.
Actuellement, les services de l'État nombreux ou exagérés par rapport à l'effectif. Et vous allez les voir sillonner le secteur pharmaceutique n'importe quand. Ça aussi, ça gêne les tenanciers des pharmacies. Et voilà qu'ils continuent toujours à nous brandir et à nous forcer de payer les taxes selon la nomenclature nationale. D'où nous, de l'Est, devrions aussi avoir un traitement aussi spécial par rapport au paiement. C'est ça une difficulté par rapport aux services collaborateurs. Vous savez, notre communauté, elle aime trop le travail. C'est pourquoi tous les villages qui étaient embrouillés par les rebelles venaient déjà de se vider déjà. Maintenant, peu après, ils ont commencé à réintégrer les membres. Ça donne aussi le courage d'aller installer des petites officines. Malheureusement, les services de l'État les poursuivent là-bas et vouloir aussi les faire payer comme toute autre grande pharmacie. Ce qui nous inquiète aussi, voir comment on ne peut pas avoir des privilèges par rapport aux différentes situations que nous tous nous connaissons très bien.
Actualité internationale.
Le Bénin a organisé hier dimanche ses élections législatives et communales dans un contexte politique encore marqué par la tentative de putsch déjouée du 7 décembre dernier. Près de 9 millions d'électeurs étaient appelés à départager les listes en lice pour pouvoir de 109 sièges de l'Assemblée nationale et plus de 1800 postes de conseillers communaux désormais élus pour un mandat de 7 ans à la suite de la révision constitutionnelle de novembre dernier. Selon la Commission électorale nationale autonome, le scrutin s'est déroulé et normalement sans incident majeur signalé.
L'invité.
Avec notre invité Jean-Marc Matoua, qui est directeur de programme des radios CAPI, vous en saurez un peu plus sur la nouvelle grille de programme de votre radio qui est entrée en vigueur aujourd'hui. Jean-Marc Matoua qui s'entretient avec Blaise Ndongala.
Bonjour messieurs. Jean-Marc Matouaki.
Bonjour, Blaise Ndongala Mayan.
La Radio CAPI, Radio des Nations Unies, lance une nouvelle grille des programmes. C'est lundi 12 janvier 2026. Qu'est-ce qui motive les lancements de cette nouvelle grille des programmes?
Merci pour la question. La grille des programmes, c'est un peu comme la colonne vertébrale d'un média, que ça soit une radio, une télé, et c'est aussi une dynamique. Les programmes évoluent en fonction des besoins des audiences. Et Radio CAPI, cette année, le 25 février 2026, 2026 va totaliser 24 ans d'existence. Donc l'année prochaine, c'est notre 25e année. Alors, pourquoi une nouvelle grille des programmes? C'est parce que les différentes émissions, les différentes chroniques, ainsi que tout ce que nous avons pu proposer à nos auditeurs, nous avons pu avoir un certain retour. Et c'est en fonction de ces retours-là que nous avons pensé redynamiser la grille actuelle. Et j'en profite d'ailleurs, puisque nous sommes encore au mois de janvier, pour présenter nos vœux de bonheur, de santé, de prospérité et surtout de fidélité à tous nos auditeurs, auditrices et internautes qui continuent à nous faire confiance.
Donc, quels sont les grands changements opérés et pour quel but?
Je commence du côté information, côté news, comme nous avons l'habitude de le dire ici au niveau de la radio. On a revu les horaires de nos journaux en langue nationale. Généralement, les journaux en Swahili démarraient à 5h05, heure de Kinshasa. Mais avec cette nouvelle grille, on a essayé un peu de décaler ça un peu plus tôt, c'est-à-dire les journaux en Swahili commencent à 4h30 de Kinshasa, plus une heure au centre et à l'est
du pays.
Voilà. Les journaux en Tchuluba, qui étaient diffusés autrefois à 5h30, passent 30 minutes plus tôt, donc à 5h, et les journaux en Kikongo passent à 5h30. Il n'y a pas de changement du côté journal en Lingala et les blocs Lingala, comme on l'appelle ici. Il y a aussi des nouveaux programmes. On a essayé un peu de renforcer les côtés radio-service, c'est-à-dire des programmes pédagogiques qui tendent à répondre à certains besoins. Par exemple, les auditeurs seront habitués à suivre une émission qui s'appelle Emploi et Business. Vous savez, c'est un magazine sur la reconversion professionnelle, l'entrepreneuriat et l'emploi sur Radio CAPI. Ce magazine tient...
De combien d'heures?
Un magazine de 55 minutes pour essayer de répondre aux besoins par rapport à l'accès à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Parce que aujourd'hui, si on fait les constats, chaque année, il y a beaucoup d'universités qui déversent sur les marchés des diplômés, mais qui parfois, pour s'adapter par rapport au contexte du marché de l'emploi, ils ont du mal. Pourquoi? Parce que quand on suit certaines offres d'emploi qui passent, on demande aux gens d'avoir un peu plus d'années d'expérience.
Et je connais des amis qui, pour les avoir fini, ont fait 20 ans, 25 ans, voilà, diplômés, licenciés, voilà, mais ils n'ont jamais travaillé. Alors, quand vous lui demandez d'avoir beaucoup plus d'expérience, vous voyez ce que ça fait?
Justement, ce magazine va tenter de répondre à cette préoccupation, mais aussi parler de cette reconversion professionnel qui est indispensable pour éviter les taux de chômage dans notre pays. Et renforcer aussi les côtés détente. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir joindre l'utile à l'agréable, créer des moments de détente, mais aussi en même temps essayer d'offrir aussi du contenu pour informer les gens.
C'est bien de parler d'innovation. Quand on parle Radio CAPI, on voit naturellement ces magazines interactifs phares, notamment Dialogue entre Congolais, au CAPI Service,
Parole aux
auditeurs. Que deviennent-ils?
Ça, c'est notre ADN. Ça peut pas changer. C'est ce qui fait notre identité.
Donc ces magazines gardent leurs heures habituelles.
Ces magazines demeurent. Cependant, il y a quelques ajustements par rapport aux horaires. Au CAPI Service sera désormais diffusé lundi, mercredi et vendredi de 10h à 12h. Parole aux auditeurs passera mardi et jeudi de 9h à 10h, avec rediffusion à 21h bien sûr. Dialogue entre Congolais, pas de changement, sauf on a essayé un peu de rajouter 10 minutes parce qu'on a reçu beaucoup de plaintes des auditeurs qui disaient mais pourquoi ne pas accorder une heure à Dialogue entre Congolais. Donc du coup, Dialogue entre Congolais sera diffusé du lundi jusqu'à jeudi de 19h05 jusqu'à 20h. Et puis les week-ends, il n'y a pas de grands changements à signaler. On aura vraiment du contenu intéressant.
Okapi Métissage est toujours là.
Okapi Métissage est là, Okapi Sport est là, grand témoin et grande interview. On a Découverte va passer les après-midi dans un format d'une heure. Et il y a aussi des nouveaux programmes comme Okapi by Night. Donc ça sera un peu faire vivre un peu l'ambiance qui règne le week-end, tout ça.
Si à l'occasion du lancement de cette nouvelle grille, si on vous demandait d'adresser un petit message aux auditrices, éditeurs et puis internautes de Radio Okapi, que diriez-vous?
Merci, merci de tout cœur pour avoir fait confiance à cette radio que vous aimez depuis plus de 20 ans. Et surtout, merci du fait que vous avez pu vous approprier cette radio. Si cette radio existe, c'est grâce à vous.
Merci à vous, Jean-Marc Matoua, qui vous avez accepté de répondre à nos questions.
Avec merci à toute la direction de la radio et à toutes les équipes qui travaillent pour que cette radio puisse continuer à faire son travail et surtout à offrir le meilleur de ses audiences.
Jean-Marc Matoua, qui est directeur des programmes de Radio Okapi, s'entretient avec Blaise Ndongala. Ainsi se termine ce journal préparé par Alain Rung avec l'apport d'un autre Alain Ngoy côté technique. Merci de votre attention. Excellent après-midi.